La semaine dernière, une étude de grande ampleur, signée par 100 chercheurs du monde entier, passait au crible près de 1500 champs agricoles à travers le monde. Les écologistes et les biologistes qui ont travaillé sur cette publication ont comparé une mosaïque de paysages sur tous les continents, comprenant des champs de maïs, de colza, des plantations de café ou des cultures céréalières. Leur conclusion révèle que les paysages agricoles ayant des parcelles plus petites et des cultures plus diversifiées hébergent une biodiversité plus importante. Au moment où les populations d'insectes s'effondrent, ces résultats donnent des informations précieuses sur la façon dont les paysages agricoles influent sur la biodiversité, mais aussi sur la capacité qu'ont les insectes eux-mêmes à lutter contre les ravageurs. Vincent Bretagnol est agroécologue et co-signataire de cette étude. Il vient nous en parler dans un instant. Il répondra à toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans quelques minutes avec vous.
Et oubliez l'écologie déprimante. On parle l'écologie souriante aujourd'hui.
Dans la deuxième demi-heure, le dernier épisode du feuilleton de la semaine en forêt amazonienne avec Guy Van Til, qu'on va retrouver auprès des populations amérindiennes du Brésil qui pratiquent activement la reforestation. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Xavier Mettet de France Nature Environnement qui va nous parler d'une application permettant d'alerter sur les dépôts sauvages de déchets. Et puis enfin, notre invité découverte sera le biologiste Thomas Changeux en duplex de la Guadeloupe pour nous parler des sargasses, ces algues qui sont une véritable plaie. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Tiffany Battistel et Louis Audebert.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Vincent Bretagnol.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes donc agro-écologue au CNRS et fondateur et directeur de la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, qui est un lieu d'études sur l'agroécologie des territoires. Et vous êtes donc co-signataire de cette grande étude publiée la semaine dernière dans Science Advances et qui montre donc que la façon dont nous utilisons les terres agricoles aujourd'hui menace la biodiversité mondiale. Racontez-nous d'abord quel était le but de cette étude au tout départ.
Alors déjà dans cette étude, il y a trois équipes françaises, une fois n'est pas coutume, donc une équipe de l'INRA de Bordeaux avec Adrien Ruche, une équipe de l'INRA d'Avignon avec Pierre-Franck et Claire Lavigne, et puis l'équipe de Chizé, donc Isabelle Badet-Nosser de l'INRA et moi-même.
C'est bien de citer vos collègues.
Oui, ouais, mais c'est normal, c'est la moindre des choses. Donc en plus, il y en a une centaine dans cette étude. Donc l'idée de cette étude, en fait, c'était de faire le point à partir d'une synthèse d'études de cas. Ce n'est pas une synthèse d'articles, c'est une synthèse d'études de cas en conditions réelles. Non seulement des liens entre l'intensification de l'agriculture et l'homogénéisation des paysages et la biodiversité, mais peut-être encore de manière plus importante entre la biodiversité et ses différentes composantes et les services écosystémiques, les fonctions de l'écosystème qui prédisent ou aident à améliorer les rendements. Donc c'est plutôt ça le cœur de l'étude.
Oui.
Donc qui a rassemblé, comme vous l'avez mentionné, pratiquement 1500 parcelles, 27 cultures.
Donc ça dans le monde entier.
Dans le monde entier, tous les continents. Alors évidemment c'est assez hétérogène, il y a peu d'études en Afrique, soit exclusivement en Afrique du Sud, mais il y a beaucoup d'études en Europe, en Amérique du Sud, en Asie également.
Oui.
Donc beaucoup de pays, beaucoup de types de cultures très très différents les uns des autres, ce qui a obligé évidemment à standardiser les métriques et les mesures. Mais le premier objectif de l'étude, ça a été d'essayer de comprendre quelles composantes de la biodiversité agit sur la pollinisation et ce qu'on appelle le contrôle biologique. Le contrôle biologique, c'est la capacité notamment des insectes à limiter les ravageurs de cultures. Et en fait, c'est une question d'actualité parce qu'on ne sait pas véritablement encore aujourd'hui, maintenant on le sait, si c'est plutôt la richesse des espèces, le nombre d'espèces.
La diversité.
La diversité, ou plutôt l'abondance totale de la communauté des abeilles, par exemple. Ou enfin, l'abondance de quelques espèces clés qui sont en plus des espèces surabondantes. En fait, dans une communauté de pollinisateurs, par exemple, il y a quelques espèces hyperabondantes et beaucoup d'espèces rares. Et en fait, on s'est intéressé dans cette étude à savoir quelles composantes de la biodiversité maximisent, augmentent la pollinisation, le contrôle biologique. Et là, les résultats sont extraordinairement clairs et intéressants. En fait, c'est deux composantes principales de la biodiversité que sont la richesse et l'abondance totale, qui agissent de manière additive et qui expliquent chacune de manière additive une augmentation de la pollinisation ou une augmentation du contrôle biologique. Et c'est extrêmement important en termes de magnitude. Dans un deuxième temps, l'étude donc s'est intéressée à l'effet de la simplification des paysages, qu'on appelle l'intensification de l'agriculture.
Alors, qu'est-ce que c'est la simplification des paysages?
Alors, on a utilisé dans cette étude ce qu'on appelle un proxy, une valeur indicatrice de la simplification des paysages, qui est le pourcentage de monoculture, par exemple. On calcule dans un rayon d'un kilomètre autour de la parcelle la proportion de cultures dominantes, par exemple le blé, qui peut varier de quelques pourcents dans des paysages très hétérogènes, très diversifiés, jusqu'à 90 et pourquoi pas 100% dans les monocultures absolument extrêmes. Et donc, ce que cette étude démontre, c'est que la monoculture contribue très fortement à la diminution de la diversité des espèces, que ce soit pour les pollinisateurs ou pour les insectes qui pratiquent le contrôle biologique. 30% de la contribution pour la diminution de la richesse des pollinisateurs, 50% pour le contrôle biologique. Et la troisième étape est peut-être la plus importante de cette étude, mais elle est basée sur un sous-échantillon, parce qu'on n'avait pas les données dans tous les cas étudiés. C'est l'effet de cette simplification des paysages et de cette biodiversité sur les rendements. Mmh. Donc c'est quand même la composante essentielle de l'agriculture.
Bien sûr, pour l'alimentation, pour se nourrir.
Pour que les agriculteurs d'abord dégagent un salaire et qu'ils puissent nourrir la population. Et ce que montre cette étude très clairement, c'est que la simplification des paysages qui engendre la diminution de la biodiversité réduit les rendements.
Donc ça fait des sacrées conclusions quand même aujourd'hui que la science nous montre, qui sont d'ailleurs très discutées aujourd'hui évidemment au sein de toutes ces professions, parce que tout le monde n'est pas d'accord non plus, et dans les métiers de l'agriculture non plus. Ça suscite véritablement la controverse, ces résultats.
Je pense que c'est difficile de contredire ces résultats, parce que c'est basé quand même sur plusieurs milliers de parcelles, et c'est pas la seule étude, elle fait...
C'est probablement la plus grande étude réalisée
la plus importante
dans ce domaine,
sur cette thématique précise, mais elle fait suite à de nombreuses études qui ont déjà démontré les liens entre biodiversité, pollinisation, biodiversité, rendement, simplification des paysages, biodiversité. Donc aujourd'hui, on a tout un cortège de dizaines et de dizaines d'études qui vont absolument toutes dans le même sens. Donc, à mon sens, il n'y a pas vraiment débat sur cette question. Par contre, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Donc c'est plutôt, et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs personnellement beaucoup plus, c'est quelle piste de solution se dégage de ce type de résultat. Et c'est très exactement ce qu'on étudie dans notre site d'étude dans le sud des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. On essaye de quantifier à quel point l'augmentation de la biodiversité peut augmenter les rendements ou peut augmenter les revenus. Donc on est plutôt dans l'examen des solutions, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature.
Mais ce qui est très encourageant finalement dans cette étude d'importance, c'est que finalement on a des solutions très concrètes qui paraissent même plus simples et moins coûteuses que finalement ce qu'on a aujourd'hui l'habitude de pratiquer, avec d'abord les pesticides très nombreux, et puis un manque de diversité à tout point de vue.
Absolument. Donc, alors moi je les appelle plutôt des pistes de solutions au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait, en tant que chercheur, on n'est pas prescripteur, on n'est pas dans le conseil agricole, on n'a pas un cahier des solutions sous la main à proposer. On examine des portes, en fait, des pistes. Donc c'est très encourageant. C'est pas pour autant que ces solutions sont acceptées ou reprises en cœur par le monde agricole, mais aussi par le conseil.
C'est pour ça que je vous parlais de controverses tout à l'heure.
Absolument, il y a plutôt des controverses sur ce qu'on fait de ces résultats. Oui. Nous, on a quand même démontré tout récemment sur les cultures oléoprotéagineuses, que ce soit le colza ou le tournesol, que les abeilles, la pollinisation, la présence des abeilles augmentaient les rendements. Quand on multiplie dans une parcelle le nombre d'abeilles par 100, on peut augmenter les rendements dans cette même parcelle de 40%, donc c'est quand même pas rien. Et on vient de démontrer que ça avait aussi des effets sur les revenus des agriculteurs, qui sont quand même actuellement souffrent d'un véritable problème de revenus. Donc il y a des solutions dans la nature, mais ceci dit, la mise en place de ces solutions à l'échelle des territoires, des exploitations, je pense, va prendre du temps, parce qu'elles sont un petit peu orthogonales au système qui est actuellement mis en place.
Dans ces 1500 champs agricoles, justement, là, partout dans le monde et pour vraiment toutes les cultures, vous avez eu vraiment des cas de figure très très différents, c'est-à-dire utilisation de produits phytosanitaires ou au contraire, agriculture biologique dépourvue de pesticides?
Absolument, tous les types d'agriculture sont couverts. On a de l'agriculture biologique, on a de l'agriculture de conservation des sols, on a de l'agriculture de précision, on a de l'agriculture conventionnelle. Une partie de l'étude, qui est celle qui porte sur les rendements, c'est aussi focalisé sur l'utilisation justement des pesticides et a montré que la biodiversité est en mesure d'augmenter les rendements. Et évidemment, quand on n'a pas d'utilisation massive, en tout cas de pesticides, puisque ces pesticides éliminent la biodiversité, donc l'effet attendu de la biodiversité sur les rendements est complètement déprimé.
Oui, mais ça veut dire que les insectes eux-mêmes se débrouillent pour faire face aux ravageurs, par exemple ?
Absolument, les insectes...
Vous l'avez vu, ça, sur une échelle de temps ?
Ah ben oui, enfin, ouais. y a beaucoup d'insectes, notamment parmi les coléoptères, les carabes sont des insectes qui se déplacent au sol, sont des très grands prédateurs de limaces, qui sont un véritable problème pour les cultures quand elles sont semées en automne. Mm-hmm. Il y a d'autres insectes comme les coccinelles qui mangent les pucerons, c'est bien connu. Donc les insectes sont, et les araignées aussi, au-delà des insectes, sont vraiment les meilleurs agents de contrôle biologique et l'efficacité de ces insectes n'est plus à démontrer.
Ouais, mais ça, sur quelle échelle de temps, par exemple ? On imagine, on prend un champ sans pesticides du tout, seulement livré finalement aux insectes. En combien de temps on arrive à avoir une défense finalement de ces cultures avec un véritable rendement, sans perte de rendement justement ?
Alors, je vais répondre à la question rendement dans un deuxième temps. L'exemple que je peux prendre, c'est celui de l'agriculture biologique. Quand on a un agriculteur conventionnel qui devient agriculteur biologique,
oui.
Sur la base d'études que nous on a menées, mais beaucoup d'autres équipes dans le monde ont mené des études un peu similaires, il faut à peu près 5 ans en moyenne pour que le contrôle biologique, la pollinisation reprenne place, c'est-à-dire que les systèmes soient régulés, mmh. Et il faut entre 5 et 10 ans pour ce qui est du sol. Alors après, pour ce qui est des rendements...
Et le rendement, oui.
Alors là, tout dépend, ça dépend beaucoup des types de cultures. Par exemple, en agriculture biologique, les rendements sont plus faibles pour ce qui est des céréales, 30 à 50% plus faible, ça dépend. Mmh. L'écart de rendement est d'autant plus important que le rendement est élevé. Donc dans les pays occidentaux comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, où on a des rendements céréales extrêmement élevés, ce qu'on appelle l'écart de rendement entre le bio et le conventionnel est assez important. Pour d'autres cultures, il est inexistant. Voire même, l'agriculture biologique procure des rendements plus élevés dans certaines cultures.
Vincent Bretagnol, justement, l'utilisation des pesticides à l'échelle mondiale, si on prend vraiment toutes les cultures du monde, ça représente quoi ?
En tonnage, j'ai plus le chiffre en tête, ça se chiffre en centaines de milliers ou en millions de tonnes, donc c'est absolument considérable. Les pesticides les plus importants sont les herbicides. À eux seuls, ils font à peu près 60% des volumes.
Sauf que l'agriculture biologique sans utilisation de pesticides reste encore majoritaire aujourd'hui dans plein de pays du monde.
Alors c'est ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance, qui dans la plupart des pays du monde, c'est de très loin l'agriculture majoritaire, c'est l'agriculture de subsistance. L'agriculture biologique, c'est plutôt, enfin, tel avec un cahier des charges assez précis. Et ça, c'est plutôt dans les pays occidentaux et ça reste minoritaire.
On vous retrouve dans un instant, Vincent Bretagnol, pour en discuter évidemment avec les auditeurs qui ont certainement des questions pour vous, 01 45 24 7000 et également les réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré.
Camille, aujourd'hui, une expression à la mode dans votre chronique, l'écologie souriante.
Oui, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps et pas de la bouche de n'importe qui. Premier extrait.
On est là dans une écologie qui est une écologie souriante.
Vous avez reconnu ?
C'est le Premier ministre.
Édouard Philippe, voilà, qui ne parle jamais d'écologie, donc c'est pas rien quand même. Et puis, on a aussi entendu dans la même semaine, quasiment, l'eurodéputé vert Yannick Jadot employer lui aussi la formule.
Je pense qu'il faut aujourd'hui, effectivement, faire de l'écologie en souriant.
Vous avez vu, c'est presque comme s'ils se répondaient les deux. Alors, de quoi parle-t-il ? Eh bien, de tout ce qu'on fait tous les jours, Mathieu, les catastrophes annoncées pour la planète. Les ouragans, donc, le réchauffement climatique, les espèces qui vont disparaître, les glaciers qui fondent, la pollution, les incendies, les sécheresses.
Oui, bon, ça va, c'est bon.
Il y en a marre, quoi.
Tout est fait pour nous faire culpabiliser, donc au final, quoi penser ?
Moi, ça me fait peur, même sur Twitter, on voit que des trucs affolants. Bah, ça encourage pas les gens parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire.
Les bonnes nouvelles, on ne les annonce pas.
Et vous, madame, les écologistes, ça va ?
Ah non, moi, alors là, m'en parlez pas, j'y crois pas. Alors.
Pourquoi vous y croyez pas ? Alors,
parce que je trouve que c'est nul.
Ah, mais qu'est-ce qui est nul ?
Tout ! Moi, je les écoute même pas. Ras-le-bol !
Elle était remontée, la dame, mais alors j'ai trouvé encore mieux comme ras-le-bol des discours écolos.
Ah ben ils nous gonflent. Hein.
Pourquoi ?
Ben pas parce qu'ils sont en train de faire de l'écologie, mais par contre, ils trouvent tout à fait normal qu'une maman tue son enfant dans son ventre. Ça c'est écologique, ça. C'est normal, ça.
Mais ça n'a rien à voir.
Ah ben si, c'est de l'écologie.
Ah, alors j'ai visé large dans l'éventail des gens. J'ai aussi trouvé, Mathieu, un auditeur qui a un petit message à faire passer.
France Inter, déjà, ils arrêtent d'inviter les collapsologues, je ne savais même pas ce que c'était avant cet été, on n'a entendu que ça.
Les collapsologues, adeptes de la théorie de l'effondrement, la fin de la civilisation.
Un de ces doctrinaires du désespoir, les implacables pessimistes.
Le bal des casse-pieds en 92, ils étaient déjà là.
C'est pour ça qu'on dit que la Terre se réchauffe. En fait, elle se réchauffe. Dans 5 ans, sur ce court de tennis, il fera 60 degrés. Comme partout. On va cramer. C'est écrit, ça. C'est écrit.
Ta gueule, Germain.
Et laissons la place donc à l'écologie souriante.
L'écologie, ça doit être beau, joyeux, positif,
ça doit être autre chose que des emmerdeurs qui viennent nous rabattre les oreilles comme quoi c'est la fin du monde.
Et c'est ce que dit de façon un peu plus polissée, on va dire, le symbole français de la vague verte aux européennes, Yannick Jadot, qui donne même un mode d'emploi.
Si vous voulez, les gens sont suffisamment déstabilisés, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas les engueuler en permanence, il ne faut pas les culpabiliser, il ne faut pas leur foutre la trouille.
Et on peut le croire, hein, ce n'est pas qu'une formule l'écologie souriante. Il ne cesse de se l'appliquer d'ailleurs. J'ai fait un petit tour dans ses interviews juste depuis un an. Attention, musique. On respire.
Oui.
Écologie souriante.
Nos enfants vivront moins bien que nous. Du point de vue de l'environnement, c'est évident que la situation se dégrade. Et si on change rien, ce sera le chaos climatique, ce sera l'anéantissement du vivant.
Après un rapport extrêmement alarmant sur la biodiversité,
ça explose les limites de la planète.
Les centrales nucléaires aujourd'hui, ce sont des risques de plus en plus importants. Ça fout vraiment les jetons. Il y a urgence.
Merci Yannick Jadot et bonjour la déprime.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Vincent Bretagnol, vous la mettez plutôt dans la case écologie souriante, votre étude, elle donne des solutions.
Quand même, oui. Absolument, mais les écologues sont des gens souriants et heureux de vivre de manière générale. Et en fait, on voit la nature et la biodiversité plutôt comme une source de solutions qu'une source de contraintes.
Mais on aime bien nous.
Et c'est ce que montrent ces études en fait. Ouais. En agroécologie, c'est vraiment le cas. La biodiversité est source de solutions. Alors évidemment, le revers de la médaille, c'est que faut quand même se dépêcher d'atteindre cette biodiversité, parce que le jour où il y aura plus d'abeilles, évidemment, il y aura plus de rendement grâce à la nature.
Et le processus va être très très vite.
Et voilà, on est retombé dans l'écologie déprimante.
Mais non, pas du tout. Au contraire, il y a plein de solutions, elles sont à la portée de main. Et la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui dans la Terre au carré. Vous nous appelez bien sûr pour poser toutes vos questions à Vincent Bretagnol et puis également vos messages sur les réseaux sociaux. Stay High, c'était Brittany Howard.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Vincent Bretagnol, agroécologue au CNRS, est donc notre invité à l'occasion de cette grande étude publiée dans Science Advances et qui montre, je vous le rappelle, donc, que la façon dont nous utilisons les terres agricoles aujourd'hui, eh bien, a un impact direct sur la biodiversité et qu'il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui précisément pour à la fois améliorer les rendements, mais également faire en sorte que cette biodiversité ne s'effondre pas. Robert est avec nous en ligne. Bonjour, Robert.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
On écoute votre question.
Ma question. Bon alors, que les petites parcelles avec beaucoup de biodiversité donnent de bons résultats, ça j'en dis qu'on vient pas, c'est du bon sens, c'est ce qui se faisait il y a longtemps. Par contre, il y a quand même un point important. Si on a des petites parcelles avec beaucoup de diversité, là-dedans, le prix de revient va être très cher. Et ce que je pose comme question, est-ce que le consommateur est capable de payer deux fois, trois fois, peut-être quatre fois plus cher qu'il ne paye actuellement, à savoir que les grandes surfaces mettent énormément de pression pour étouffer les agriculteurs.
Alors, Vincent Bretagnol, votre réponse à Robert. Merci Robert.
Alors, ma réponse va sortir un peu évidemment du cadre de l'étude en question, mais c'est des choses qu'on étudie sur notre zone atelier dans le sud des Deux-Sèvres avec Sabrina Gaba notamment, qui est chercheur à l'INRA. D'abord, la taille optimale de parcelles. On ne parle pas de parcelles qui descendent à un demi-hectare ou un dixième d'hectare comme c'était dans les années 50. La taille optimale de parcelles dans un système de grande culture comme le nôtre se situe probablement entre 3 et 5 hectares. Donc c'est quand même déjà des dimensions auxquelles on fait des économies d'échelle. Mmh. Et par rapport au prix de revient pour le consommateur, la solution qu'on essaye de mettre en place avec les citoyens, c'est de mettre en place des filières courtes avec l'achat direct aux agriculteurs. Le prix de revient pour le consommateur est pas plus cher et l'agriculteur gagne plus d'argent parce qu'il économise les intermédiaires.
Et on a Sébastien justement par mail qui dit on entend souvent que le bio requiert plus de surface que l'agriculture conventionnelle. C'est vrai ?
C'est seulement partiellement vrai, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Évidemment pour le blé, on n'a pas les mêmes rendements en bio. Pour la plupart des autres cultures, on a des rendements équivalents. Donc il y a beaucoup d'argumentation autour de cette question et la balance aujourd'hui penche plutôt vers l'idée que le bio en fait est tout aussi efficace en termes de production de protéines ou d'énergie que le conventionnel et donc il n'y a pas besoin de plus de terres, il faut juste mieux les utiliser.
Mmh. Elisa sur Facebook nous dit exactement comme Robert, hein, pourquoi faut-il faire des études scientifiques pour redécouvrir ce que le bon sens paysan connaît depuis longtemps, les grandes cultures réduisent la biodiversité. On peut résumer les choses vraiment comme ça ?
Oui, on peut. Enfin, moi, j'aime plutôt prendre les choses à l'inverse, c'est-à-dire comment soutenir la biodiversité pour augmenter les rendements et les revenus. Donc, c'est faire peut-être effectivement un petit peu l'inverse de ce qui a été fait ces dernières décennies. Après, ce que fait la science aujourd'hui, elle découvre d'autres pistes de solutions. Elle quantifie ces solutions. Quand on explique à un agriculteur ou à un organisme conseil que les rendements peuvent être augmentés de 20 à 40%, c'est des chiffres qui aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de comptabilité. Les exploitations agricoles, ce sont des exploitations, ce sont des entreprises. Et donc voilà, le fait de mettre des chiffres derrière la biodiversité, la proportion de haies qu'il faut, la proportion de prairies dans un paysage, c'est important.
Ouais, ça justement, c'est le contraire de la simplification. C'est de remettre par exemple des haies.
Absolument.
Qui ont un rôle absolument prépondérant pour la biodiversité.
Il est aujourd'hui capital de rediversifier les paysages. Les paysages étaient autrefois diversifiés. Il y avait 50 voire 60% de prairies. Aujourd'hui, on est descendu à moins de 10%, voire pratiquement zéro dans la Beauce. On a besoin de prairies, on a besoin de bosquets, on a besoin d'arbres isolés, de petites vignes, de murets, de martres. Tous ces éléments qu'on appelle les éléments semi-naturels, c'est eux qui hébergent la biodiversité. Il y a peu de biodiversité qui se reproduit dans les grandes parcelles agricoles. Mais c'est pas un problème si on a ces éléments semi-naturels dans le paysage.
Ça abrite et ça attire, hein, la biodiversité.
Oui, puis hein. C'est des refuges, en fait. C'est des endroits où ils peuvent se reproduire parce que c'est des terres qui ne sont pas labourées. Il n'y a pas de pesticides. Donc, ces animaux, ces plantes, se reproduisent en fait dans ces éléments semi-naturels. C'est aussi le siège des grands cycles de la matière organique, des gaz à effet de serre. Donc en fait, les paysages agricoles ont besoin de ces éléments permanents, de ces structures permanentes.
Georges est en ligne également avec nous. Bonjour Georges.
Bonjour France Inter, bonjour Monsieur Bretagnol, bonjour toute l'équipe. Merci de prendre ma question, enfin ou tout au moins mon intervention.
On vous écoute.
Sur votre antenne. Je voulais dire à Monsieur Bretagnol qui tout à l'heure parlait que l'augmentation de la pollinisation augmentait également le rendement des cultures, mais en définitive ça c'est la palissade parce que il est évident que, je vais vous citer l'exemple des melons, nous sommes dans une région, l'Hérault, où il il y a pas mal de melonnières et pour un hectare de melon, de melonnières, il faut au moment de la floraison 2 ruches par hectare. C'est-à-dire que sans ces ruches-là, sans ces essaims d'abeilles et sans leur travail, il n'y aurait pas de melon. Ceci, personne ne le sait, ou si peu de gens, si peu de personnes qui consomment du melon, par exemple. Et on peut prendre d'autres exemples là-dessus. Donc il est évident que l'augmentation de pollinisateurs favorise le rendement. Tout ceci, bien entendu, chez nous, avec une absence totale de produits chimiques, puisque l'agriculture se fait de manière raisonnée, ou en bio et biodynamie. Voilà ce que je voulais dire. Et quant aux haies, je viens d'entendre vos propos également sur les haies, sur le bénéfice justement des engrais verts de ces choses-là. Moi, j'ai 73 ans, et quand nous étions gamins, à 7 ou 8 ans, il s'est produit un phénomène français qui était le remembrement. Alors, on a fait d'une parcelle, on a ajouté plusieurs, si bien qu'on a fait des grandes étendues, on a supprimé des petits ruisseaux, et on a ce que l'on découvre aujourd'hui, hier et avant-hier, des torrents de ruisseaux, parce qu'il n'y a plus le drainage suffisant. Voilà où nous a conduit la modernisation et l'exploitation intensive. Donc, je rappelle à M. Bretagnol que c'est une constante avérée et depuis plusieurs décennies que plus il y a de pollinisateurs et plus on a de chances d'avoir des rendements sains.
Merci de votre témoignage, Georges, évidemment, qui nous parle tous.
Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait il y a des cultures, des plantes pour lesquelles la pollinisation par les insectes est obligatoire pour la production du fruit. C'est le cas du melon, c'est le cas d'un certain nombre de... c'est le cas du café, je crois, aussi. Il y a d'autres cultures pour lesquelles la pollinisation est absolument pas... par les insectes est absolument pas utile. C'est le cas des céréales. Et puis il y a des cultures intermédiaires comme le colza ou le tournesol, où la pollinisation ajoute à la production de fruits. Et c'est un aspect qui avait été finalement assez peu pris en charge et pris en compte par les sélectionneurs, puisque en fait les variétés de colza et de tournesol ne s'intéressent pas du tout à la pollinisation et à l'attractivité des insectes. Et c'est une erreur, parce qu'on démontre que c'est finalement un paramètre important.
Les coccinelles aussi, ça joue pour les melons, je crois.
Oui, alors les coccinelles sont des prédateurs, donc ça élimine des insectes qui sont des insectes ravageurs.
Question d'Elisabeth, qui a payé cette étude ?
Alors, les études qu'on mène sur la zone atelier sont payées par les concitoyens de manière générale à travers des appels d'offres, en fait. La recherche aujourd'hui fonctionne sur appel d'offres avec l'Agence nationale de la recherche ou l'équivalent à l'échelle de l'Europe. Donc c'est payé, c'est pas payé par les firmes, si c'était ça, si c'était le sens de la question, c'est payé par des appels d'offres recherche pour l'essentiel. Et dans le cas de la pollinisation, on a eu aussi un financement de la part du ministère de l'écologie.
Marie-Christine est en ligne, bonjour à vous, merci de nous appeler.
Oui, bonjour.
On écoute votre question, il nous reste peu de temps.
Bravo d'inviter Vincent Bretagnol, avec lequel j'étais en lien il y a quelques semaines sur des tentatives d'intervention dans la région parisienne pour essayer de travailler avec les agriculteurs, de main dans la main et non pas par opposition. Alors j'espère qu'il reviendra pour d'autres émissions, parce que je pense qu'il a plein d'autres choses à dire.
Oui, c'est passionnant.
Moi,
en tout cas,
je voulais poser la question. Il y a des demandes tout à fait renouvelées des consommateurs. Je cite au hasard les lentilles, les oléagineux, le marché de l'isolation demande beaucoup de paille, du chanvre, etc. Donc je pense qu'en effet, on pourrait accompagner les agriculteurs dans la conversion dont ils parlent. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas une vraie volonté politique de réformer notamment les chambres d'agriculture, dont les formations sont téléguidées par des lobbies de l'agrochimie, selon moi, afin que les formateurs deviennent totalement libres, et ainsi de créer des ponts entre les scientifiques qui sont libres, comme Vincent Bretagnol, et les agriculteurs, pour qu'ils puissent ensemble trouver les solutions.
Merci pour votre question, Marie-Christine, qui complète celle d'Adèle sur Facebook, qui demande comment accompagner cette transition quand les agriculteurs sont en compétition avec des pays qui n'ont pas la même démarche.
Alors déjà, plutôt que de transition, je parlerais de transformation, parce que transition, c'est un peu lent par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. Et quand on parle de transformation, faut que tout le monde s'associe.
Faut y aller, quoi.
Les individus, je parlais tout à l'heure des citoyens, les consommateurs, il faut qu'ils qu'ils se réapproprient l'agriculture et l'alimentation, les agriculteurs évidemment aussi, les collectivités, les pouvoirs publics, il faut aussi des actions collectives, en fait les filières courtes c'est des actions collectives, donc c'est une association entre l'individu, le collectif et le politique qui nous permettra de transformer la société. Ça ne se fera pas contre les agriculteurs, ça ne se fera pas contre les politiques, ça ne se fera pas contre les citoyens.
Merci beaucoup Vincent Bretagnol. On mettra d'ailleurs l'étude publiée dans Science Advances en lien sur le Twitter de La Terre au Carré pour ceux qui souhaitent la lire. C'est en anglais hein, évidemment, mais c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui. Puis on aura l'occasion évidemment d'aborder ce sujet abondamment dans notre programme. Juste après les infos, dernier reportage de Guy Vanctil en forêt amazonienne avec les populations amérindiennes qui pratiquent la reforestation.
La Terre au carré.
Et dans cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète, ce sera avec Xavier Mettet de France Nature Environnement Pays de la Loire qui va nous parler d'une application qui permet d'alerter sur les dépôts sauvages de déchets. Vous voyez, c'est par exemple, vous voyez un type
qui... Je vais pouvoir le signaler, voilà. il y en a pas loin là.
Quelqu'un qui verse de l'huile dans une rivière par exemple. Et puis notre invité découverte sera le biologiste Thomas Changeux en duplex de la Guadeloupe pour nous parler des sargasses, ces algues qui posent de véritables problèmes en ce moment. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est le moment de retrouver le dernier épisode de votre série de reportages avec les populations amérindiennes du Brésil qui luttent contre la déforestation.
Oui, parce qu'alors que tous les budgets des organismes pourtant officiels de défense de l'environnement et des terres indigènes fondent, comme les icebergs au soleil, alors que plus de 250 nouveaux pesticides, dont un bon nombre sont interdits en France et en Europe, ont été autorisés par le gouvernement de Bolsonaro au nom de l'agriculture intensive à coups d'OGM, et ben les souris, eux, suruï, exactement, oui. C'est un peu mieux, associent leur tradition aux dernières trouvailles de l'agroforesterie. Tout ça pour montrer qu'un autre rapport à la terre peut même être plus rentable. Les souris replantent contre l'agro-business.
Plus les mois passent et plus la situation s'aggrave pour la forêt amazonienne.
Le dirigeant climato-sceptique veut stimuler l'économie du pays en développant les terres d'élevage et les zones cultivables.
Dès son entrée en fonction, le président a retiré à l'organisme public chargé des questions indigènes ses attributions en matière de démarcation des terres.
Les défenseurs de l'environnement craignent une accélération de la déforestation de l'Amazonie.
En un an, la dévastation de la plus grande forêt tropicale du monde en territoire brésilien a augmenté de 258%.
La pluie a fini de tomber, donc la terre rouge est devenue toute boueuse. C'est très paisible.
Pas bon, Mélanie.
23 ans. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
On va faire un tinte, né? Para pintar o pessoal que vai vir aí.
Ils sont en train de râper l'écorce de ce génie papo pour faire de la couleur, pour faire des peintures corporelles. Il y a combien de gens qui vivent ici, dans le village?
Aqui, eu acho que são 16 familles.
16 familles avec à peu près 96 personnes. C'est la clairière du village, mais tout autour de nous, c'est de la vraie forêt primaire.
Sim, aqui já, a gente já preserve muito a floresta, né? Comme on précise.
Oui, ici on protège la forêt parce qu'on en a besoin. Parce que ceux qu'on appelle les colons, ceux qui viennent s'installer ici, qui ne sont pas des indigènes, eux, ils veulent juste penser économiquement. Ils veulent déboiser, défricher pour avoir de l'argent vite.
Et ici, dans notre aldeia, déjà, quand on desmata, on récupère l'area qui a été desmatada.
C'est pour ça qu'ici, on essaye, dans ce village, on a tout un programme de reforestation. Et quand les gens viennent couper des arbres illégalement ou défrichent des parties de notre forêt, ben, on la replante pour qu'elle repousse.
Pour les Indiens Suruí, il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais d'avoir un réel projet de vie, montré au monde entier que l'on peut vivre de la forêt sans la saccager.
Nous voici dans les champs des Suruí. Alors ça ressemble pas du tout à un champ. Et je reconnais le chef Agamemnon qui est en train de cueillir les cacaos et son épouse, elle est en train de les ouvrir un coup de machette et les évider dans un sac pour sortir juste la pulpe et les graines.
Mon nom est Agamemnon.
Je m'appelle Agamemnon.
Je suis morador de Aldeia Petagna.
J'habite dans le village La Petagna.
Je suis chef de forestamento.
Je suis aussi le chef responsable de la reforestation et c'est pour ça que vous me montrez tous les arbres derrière là qui ont été plantés.
Et tenho cacao aqui.
Il y a le cacao qui est là, les bananes à côté.
Eu plantei de inga.
Il y a aussi des ingas. Et ça, c'est juste à côté, il y a un autre petit arbre avec des feuilles toutes dufteuses, toutes soyeuses.
Cacheta.
Cacheta.
Também que plantei o castanho, né?
Ah, et ça, c'est aussi des noix du Pará.
Já tem depois onde que eu derrubei no mar, na roça. Quand on crescait, pour parler, après pour planter, et base de banane.
Et voilà, vous avez déjà planté aujourd'hui ces arbres qui, là pour l'instant, il fait quoi? Il fait 3 mètres de haut. Vous les avez replantés sur des zones qui ont été déforestées. Et quand cette zone que vous cultivez sera fatiguée, vous allez la laisser au repos et aller un peu plus loin. Et les arbres que vous avez laissés ici vont continuer à pousser.
50 000 arbres sont replantés chaque année. Dans la tribu, certains des plus jeunes ont étudié l'agronomie. Dans leur serre, les souris sont fiers de montrer les plants d'arbres exotiques.
Ça, c'est toute une partie de la forêt qui a été reforestée. Alors nous, on est dans les champs. Enfin, on est là où il y a les cultures. Là, on est en train de ramasser, de mettre dans des casiers des bananes légumes. On est en train de les charger dans un camion. Ah, et eux, ça, c'est des gars qui viennent les acheter, les bananes.
Oui, bon dia.
Mon nom est Magno Heller.
Magno Heller.
Magno Heller, agriculteur.
Agriculteur.
De Otalien, dans uns 26 km là.
Vous venez de 25 km d'ici.
Et la production de bananes deles, ici, en vue de ce que produisent là, deles, est beaucoup meilleure.
Et les bananes qu'ils produisent ici, elles sont bien meilleures, en fait, que les vôtres.
C'est la terre qui est plus forte, qui est naturelle, também, non, tem veneno, non, tem nada.
Ah, et c'est la terre aussi qui est meilleure, la culture qui est faite sur le principe traditionnel, sans pesticides. Et là, on voit la femme du chef qui arrive avec un grand sac et sa machette à la main, qui revient le long du chemin.
Valeu, obrigado.
Eu não vou desistir disso não. É que mesmo assim que eu vou lutar.
Je vais pas abandonner. Je vais toujours me battre pour la forêt.
Por exemplo, de peixe tem costume de água de ele ficar seco assim não mais viver.
C'est comme un poisson. Si la rivière s'assèche, bah il pourra plus vivre. Ouais, vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans la forêt. Et pendant ce temps-là, il y a un couple de perroquets qui passent au-dessus de notre tête en chantant.
Voilà, une dernière petite bouffée sonore de l'Amazonie, Guive, avant que la saison des pluies n'arrive enfin dans la région, d'ailleurs, et mette fin pour cette fois, en tous les cas, aux incendies. Hein.
Oui, un grand merci donc à Chef Agamemnon et aux Souroui, ainsi qu'aux Ouroué Wawa qui nous ont accueillis toute cette semaine. Longue vie à eux, en lutte.
Et on peut réécouter évidemment l'intégralité de ces reportages, et puis il y a même un diaporama avec des photos que vous nous avez rapportées de votre périple brésilien. Merci beaucoup, Guive Anquetil.
Merci.
À très vite dans La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Xavier Mété, vous êtes en ligne avec nous d'Angers. Bonjour.
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 Et bienvenue, vous êtes le coordinateur de France Nature Environnement Pays de la Loire et on va parler avec vous d'une application Sentinelle de la Nature qui est un outil pour lutter entre autres contre les décharges sauvages. Racontez-nous comment ça fonctionne exactement.
Alors c'est une application qui permet effectivement de signaler des atteintes à l'environnement et qui permet aussi de signaler des initiatives favorables à l'environnement. Donc c'est un outil qui permet de montrer les points noirs et les points verts sur une cartographie. Tout un chacun, citoyen, peut télécharger cette application et en se baladant dans la nature, dès qu'il voit une atteinte à l'environnement, il peut faire un signalement, hein, que ce soit une décharge sauvage, une pollution de cours d'eau ou autre.
Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs les déchets sauvages? Parce que c'est un vrai problème pour beaucoup de collectivités aujourd'hui, mais c'est une gamme très très large. Hein.
Ben, ça va du dépôt de pneus ou de bâches plastiques, de bidons, etc., laissés au bord d'un chemin, ou déchets de BTP déposés par des entreprises dans des volumes plus conséquents. Donc effectivement, sur l'ensemble du territoire français, c'est une problématique.
Et quand vous parlez d'atteinte, est-ce qu'il y a entre guillemets une atteinte minimum, c'est-à-dire que si on se promène en forêt, en montagne et qu'on voit des sacs plastiques qui sont restés, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que ce soit quand même un peu plus gros entre guillemets comme dépôt?
Non, il n'y a pas de petite atteinte à l'environnement, hein, donc effectivement, nous, ce qui nous intéresse, ce sont l'ensemble des atteintes. La personne qui nous fait le signalement devient une sentinelle, elle se crée un compte, et en devenant sentinelle, elle va avoir l'appui de nos associations de protection de l'environnement, liées au mouvement France Nature Environnement, et nos associations sur l'ensemble du territoire vont accompagner cette personne pour essayer de résoudre l'atteinte à l'environnement. Donc on va conseiller la personne pour qu'elle puisse envoyer des courriers, soit aux collectivités, soit aux services de l'État, etc., pour résoudre l'atteinte à l'environnement.
Alors justement, Xavier, comment ça fonctionne avec Sentinelle de la Nature? C'est le nom justement de votre application. On est face à une décharge, par exemple. Est-ce que vos associations, vos relais un peu partout en France, ont la capacité de venir nettoyer ou c'est pas tout à fait leur rôle? Comment ça se déroule?
Alors, ce n'est pas tout à fait notre rôle, effectivement. C'est plutôt nous, on vient en appui à la personne qui devient sentinelle, on la conseille. Et ce qui permet aussi cette application d'avoir un suivi de l'ensemble de nos dossiers. On a plus de 1800 atteintes sur notre site internet, hein, et on est en train de traiter environ 3000 atteintes en France. Donc voilà, ça permet aussi nous d'avoir un suivi par territoire, d'aller échanger avec les élus locaux, avec les services de l'État. Mmh. C'est un outil aussi qui sert de médiation environnementale et d'amener du dialogue sur le territoire. Quand par exemple sur une collectivité, on a des signalements répétés de décharges sauvages, de pollution de cours d'eau ou d'épandage de produits de pesticides, ça permet aussi d'engager la discussion avec des élus en leur disant mais voilà, sur votre territoire, il y a une problématique, comment on fait pour la résoudre de façon collective? Soit par des réunions publiques, par de l'information, de la pédagogie, etc.
Xavier, quelles sont les atteintes justement qui reviennent le plus souvent dans les milliers que vous avez évoqués?
Alors, hélas, ce qui revient le plus souvent, si on en parlait à l'instant, ce sont les décharges sauvages, hein, le dépôt de déchets en pleine nature. Mmh. Arrive derrière le brûlage de déchets verts, hein, qui est aussi interdit. Et puis derrière, on a la pollution de cours d'eau, destruction de milieux naturels qui arrive régulièrement sur le haut du panier.
C'est pourtant lourdement condamné, les décharges sauvages pour les entreprises, par exemple, Xavier.
Oui, effectivement, pour toutes ces atteintes, il y a en face une réglementation, et cette réglementation prévoit effectivement des condamnations, soit d'amende, soit voire même de peine de prison. Mmh. Alors c'est après la difficulté de trouver la personne qui a déposé par exemple des déchets ou qui a fait la pollution d'un cours d'eau, si retrouver la bonne personne, et c'est ensuite une instruction en justice. Et c'est pas forcément la priorité des parquets que de poursuivre des personnes ayant pollué le milieu naturel. Donc au fait, notre travail aussi via cet outil est de sensibiliser les procureurs à ces problématiques environnementales.
Bon, il y a quand même des initiatives positives, hein, dans tout ça qu'on peut vous signaler.
Oui, effectivement, je le disais bien, il y a aussi l'autre côté où on peut mettre en avant via cette application, ce site internet, des initiatives positives pour l'environnement, hein, favorables à l'environnement, portées soit par des associations, des collectivités ou même des entreprises, ce qui permet aussi de montrer que sur notre territoire, il y a des choses qui vont aussi dans le bon sens.
Bon, ben, ça fait du bien et ça fait plaisir à Camille.
Voilà, vous n'êtes pas que la police des déchets.
Merci beaucoup.
Pas que, effectivement.
Merci Xavier. Donc cette application, c'est Sentinelle de la Nature, elle existe depuis l'année dernière, ça fonctionne bien parce que malheureusement, le problème est croissant partout sur notre territoire. Et c'est avec votre association France Nature Environnement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et puis si de votre côté, vous êtes également à l'origine d'une initiative pour la planète, pour votre collectivité, eh bien n'hésitez pas, on a besoin de vous entendre aussi. Et vous pouvez venir vers nous, franceinter.fr, et vous allez sur la page de la Terre au Carré. Et on vous rappellera, c'est Chantal Le Montagnier qui fera tout ça. À bientôt. Dans un instant, on parle des sargasses. Nous serons en direct de la Guadeloupe. Je ne sais pas danser, c'était la voix de Pomme.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ça vous plairait, Camille, d'aller faire un petit tour à la Guadeloupe?
Allez, c'est parti.
Eh bien, on y est avec Thomas Changeux qui nous attend depuis les studios de Guadeloupe Première. Bonjour.
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 Bienvenue à vous. Ça va? Il fait beau à la Guadeloupe en ce moment?
Ah oui, temps magnifique.
Vénard.
Je me mets de ton que j'arrive.
Vous êtes biologiste à l'IRD, Thomas Changeux, spécialiste des sargasses justement. Et aujourd'hui commence une conférence internationale dédiée à ces algues brunes qui vivent donc à la surface de l'eau et qui posent de nombreux problèmes. Est-ce que d'abord vous pourriez nous resituer la mer des sargasses sur la map monde, s'il vous plaît?
Oui, alors la mer des sargasses historique, celle qui a été découverte par Christophe Colomb, c'est située au niveau des Bermudes, au milieu de l'Atlantique, mais dans la partie nord.
Donc plutôt du côté des États-Unis, hein.
Excusez-moi.
Plutôt du côté des États-Unis, donc.
Alors oui,
en l'occurrence,
tout à fait, entre l'Europe et les États-Unis.
Oui. Alors jusqu'à présent, effectivement, c'était là qu'étaient localisées ces algues. Et depuis combien de temps maintenant est-ce qu'on observe un déplacement?
Alors en réalité, on a observé différents déplacements, mais celui qui a marqué les Antilles, il date de 2011, année à partir de laquelle on a vu des échouages assez importants se produire sur les côtes antillaises, mais pas uniquement, parce qu'on peut suivre en réalité l'évolution des sargasses depuis le ciel avec des images satellites, et en réalité... Les sargasses s'échouent partout en Afrique, en Guyane et sur les Antilles, et ça pose de graves problèmes.
Pourquoi ça pose des problèmes justement les sargasses?
Eh bien, parce que elles stagnent sur les plages, et à ce moment-là, elles se mettent à fermenter et à produire de l'hydrogène sulfuré qui sent extrêmement mauvais, et puis qui a d'autres conséquences sanitaires et également matérielles, puisque ici où l'atmosphère est saturée en eau, l'hydrogène sulfuré qui est issu de cette fermentation attaque les circuits électriques.
Et ça fait combien de temps? Donc vous disiez depuis 2011, mais ça correspond à quoi alors finalement cet événement et ce changement dans le déplacement de ces algues? Est-ce qu'on le sait exactement?
Alors effectivement, ça c'est une question scientifique très très importante, et c'est l'objet justement de cette conférence qui rassemble les lauréats d'un appel d'offres qui a été ouvert par les Français, mais en collaboration avec des Brésiliens, avec un jury international, dont l'objectif est entre autres de comprendre ce qui est à l'origine du phénomène. Mmh. Et le phénomène est expliqué par un concours de circonstances, mais qui est à l'origine basée sur, on pense, les apports de fertilisants issus des grands bassins versants comme celui de l'Amazone, qui se déversent à ce niveau-là de l'Atlantique, au sud, donc entre le Brésil et l'Afrique. Et à cet endroit-là, finalement, dans l'océan, il y a une zone de recirculation qui permet donc la stagnation des sargasses et un déplacement finalement depuis la mer des sargasses située au nord historique vers le sud, et la création d'un nouvel endroit où elles prolifèrent.
Donc Thomas Changeux, pour bien comprendre, ce sont les engrais qui seraient à l'origine de cette prolifération des algues.
Et bien ça c'est l'hypothèse majoritaire, celle qui a été publiée cette année dans Science par une équipe américaine et qui évalue après différentes autres études qui l'ont précédée les différents facteurs qui ont pu être considéré comme étant à l'origine, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y a également l'augmentation de température, les possibilités d'enrichissement par les poussières issues du Sahara. Donc il y a beaucoup d'hypothèses, et la corrélation la plus évidente, ben, c'est celle que vous évoquiez d'ailleurs dans une des rubriques précédentes, qui est l'évolution de ce qui se passe sur le bassin amazonien, avec la déforestation d'un côté et la mise en culture avec des engrais de l'autre.
Du coup, est-ce qu'il y a des solutions pour prévenir ces invasions de sargasses ?
Alors, pour les prévenir au plan matériel, évidemment, il y a un moyen, c'est de les intercepter avant. Et pour les intercepter avant, oui. Il faut pouvoir en prévoir l'arrivée. Et ça, c'est un autre volet de l'appel d'offres qui a été ouvert et qui va donner lieu à des études, qui est d'essayer de prévoir donc à très court terme, à moyen terme et à long terme les arrivées de sargasses, de manière à s'organiser au mieux pour éviter qu'elles ne s'échouent sur les côtes.
Thomas Changeux, vous nous disiez que cette prolifération donc provoque des gaz nauséabonds. Est-ce que ça peut être véritablement toxique pour à la fois le milieu, les écosystèmes et pourquoi pas pour les hommes ou les animaux ?
Alors oui, ça c'est également un volet de l'appel d'offres sur l'impact. Et bien entendu, il y a des impacts sur la côte elle-même, donc les écosystèmes coralliens qui sont une fois envahis par ces marées brunes, comme on les appelle, n'ont plus d'accès à la lumière et se mettent tous à mourir. Donc ça, c'est les écosystèmes coralliens. Mais il y a également, une fois échoué, le dégagement d'hydrogène sulfuré que j'évoquais tout à l'heure. Et la difficulté étant qu'il faut vite les retirer avant qu'elles ne se mettent à fermenter.
Alors, qu'est-ce que, justement, vous faites comment pour les retirer une fois qu'elles sont sur les côtes ?
Alors, ça, c'est moi l'objet des recherches que je mène, hein, puisque moi, je suis au laboratoire à l'Institut méditerranéen d'océanologie, donc à Marseille-Lumini. Hein, et on travaille plutôt sur les aspects, je dirais, explicatifs et sur la valorisation et la compréhension du phénomène. Mais lors de ce congrès, j'ai appris qu'il y avait des tas d'initiatives locales qui avaient été mises en œuvre, des équipements avec des machines, même des conceptions de sortes de moissonneuses pour récupérer au large les sargasses avant qu'elles ne s'échouent. Pour l'instant, ce sont des appareils qui sont plutôt expérimentaux et sur lesquels, donc, finalement, il y a des essais qui sont faits pour essayer de faire face aux échouages.
Thomas Changeux, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces algues sargasses et le problème des algues vertes, par exemple, sur les plages bretonnes ou sur la côte atlantique en métropole ?
Ah bah, moi, en tout cas, qui suis donc biologiste, hydrobiologiste et qui ai longtemps travaillé sur les eaux douces et sur la problématique, évidemment, des engrais et de toutes les questions qui sont levées par la directive cadre sur l'eau, donc qui est en application depuis depuis 20 ans en métropole et qui commence à fonctionner ici. Bien évidemment, il y a un lien, c'est simplement, il y a un changement d'échelle. Hein. Évidemment, là, ce qui se passe autour de la Bretagne, par exemple, avec le lisier de port, là, on le voit à l'échelle de l'océan Atlantique avec les apports des différents fleuves, y compris donc certainement l'Amazone.
Est-ce qu'il y a un impact réel sur le tourisme ? Là, vous êtes à la Guadeloupe en ce moment. Est-ce que ça touche beaucoup les infrastructures sur place ?
Alors, il se trouve que c'est un phénomène qui est saisonnier, hein, même si ce n'est pas d'une régularité absolue. Et malheureusement, ça survient souvent en été. Hein, donc aux Antilles, mais dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique, c'est plutôt en fin d'année que ça se produit. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un phénomène général et vraiment très très étendu. Hein. On estime à 20 millions de tonnes, et encore, je pense que c'est une estimation très très basse. C'est à peu près l'équivalent de la production mondiale annuelle d'algues cultivées. Donc c'est vraiment gigantesque. Et le tourisme, effectivement, il est chez nous en Guadeloupe. Et en Martinique et sur toutes les Antilles où l'activité touristique est importante, il est impacté.
Il y a beaucoup d'espèces différentes de sargasses ?
Alors là, c'est une question qui est pour l'instant, pas vraiment tranchée, puisque quand on va sur le terrain, on trouve à peu près, et on le voit très bien, trois formes différentes. Et quand on regarde la littérature, il n'y a que deux espèces. Donc ça, c'est un des sujets qu'on se propose d'aborder pour clarifier les choses, sachant que c'est très utile parce que visiblement, ces trois formes qui sont donc avec des configurations très différentes, visiblement ont des caractéristiques, des traits d'histoire de vie, c'est-à-dire des capacités de croissance, de multiplication, qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça serait très important de pouvoir en prendre compte dans la modélisation qu'on développe autour de la prévision.
Merci en tout cas, Thomas Chang. Merci beaucoup. Hein. Conférence internationale dédiée à ces algues brunes, donc à partir d'aujourd'hui à la Guadeloupe. Et merci aux équipes de Guadeloupe Première pour ce duplex. Bonne journée à vous et à demain, Camille.
À demain, bon après-midi.